Tout de suite, sur France Culture, du lundi au jeudi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Yvonne Abolivier. L'heure du documentaire. En canoë, en pédalo ou seul au boulot, en randonnée, dans une chaise longue à la pêche à pied, en escalade pour les moissons au bain de soleil, en tricotant, tranquille dans la ville ou perdu dans la foule, cette heure est pour vous. 53 minutes choisies dans 10 années de Sur les docks, un thème et 4 épisodes pour faire vagabonder ses pensées et prendre les chemins de traverse. Cette semaine, nos amis les bêtes. Et aujourd'hui, Les gorilles ne connaissent pas le règlement, un documentaire de Lydia Ben-Itzak réalisé par Anna Schmuck. Il y a un livre d'enfant qui s'appelle Petite beauté. C'est un livre d'Anthony Brown qui raconte une histoire d'amitié entre un chaton et un gorille. D'ailleurs, dans ses albums, des gorilles, il y en a partout. Ils sont des figures sympathiques, bienveillantes et protectrices qui veillent sur les enfants. Dans Petite beauté, le gorille est en captivité. C'est un gorille sur lequel les chercheurs font des expériences cognitives. Il vit dans un genre d'appartement, il a même la télé. Et un jour, on lui offre un chaton comme compagnon. À un moment, le gorille a un accès de colère. Or ça, c'est interdit. Mais heureusement, il est tiré d'affaire par le chaton. Parce qu'on l'a souvent en tête comme ça, le gorille, en colère, se frappant le poitrail aux côtés de Tarzan, ou ivre de rage, accroché au sommet de l'Empire State Building. Alors, comme tous les animaux, c'est bien plus compliqué que ça. Quatrième volet, on arrive dans la grande forêt.
On est à combien de kilomètres, s'il te plaît, du point de départ pour aller voir les gorilles?
Hier, j'ai dit d'office jusqu'au parking, c'est 12 km, mais ça dépend les parkings.
Voilà, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des groupes de gorilles qui sont plutôt vers l'altitude, et donc il faut marcher sur des pentes de volcans quand même assez élevées. Et l'idée, c'est est-ce que les gens ont la condition physique pour supporter le choc. Et voilà, donc là, on va peut-être rester groupés, peut-être pas. C'est le suspense.
Les gorilles ne connaissent pas le règlement. Un documentaire de Lydia Ben-Itzak et Anna Schmuck.
C'est le grand silence de l'histoire. L'un des axes de nos recherches nous a mené à l'étude des singes. Et c'est l'existence du gorille et du chimpanzé en Afrique centrale qui nous a donné à penser que nos lointains ancêtres ont vécu sur ce continent. Ces deux animaux, et le plus rare de tous les singes, est le gorille de montagne. Il a pour habitat les hautes terres luxuriantes de l'Afrique centrale, si reculées que notre dernier chercheur, victime d'une crise d'appendicite, y serait mort sans l'intervention de Rose Carr, une amie américaine du Rwanda, qui le fit hospitaliser. Ces animaux l'emportent sur les singes par l'intelligence. Mais l'étude du gorille de montagne a pratiquement cessé.
Ok.
Your driver will present your permits to the...
Ok, thank you.
On doit voir les Amahoro group. Amahoro veut dire la paix. Le chef, il est vraiment très calme. Ils sont au nombre de 19 gorilles. Il y a 3 dos argentés dans les groupes. Il y a 5 femelles, les autres sont des juvéniles et des bébés. La plus petite bébé a 7 mois dans ce groupe. S'il n'y a pas un nouveau-né à ces nuits ici, ça serait mieux de se connaître. Parce que aller dans la forêt sans connaître ton nom ou ton nom, je pense que ce n'est pas bien. Il faut aussi nous dire votre nom. Et l'expérience que vous venez de faire ici aussi.
Le Rwanda a décidé de miser sur le tourisme pour protéger les derniers gorilles des montagnes. Dans notre petit groupe, il y a Antoine et Anne-Lise qui viennent d'Alsace, Daniel et Marie de République tchèque, Laurent de la région niçoise, Detlef et Brigitte d'Allemagne.
My name is Detlef. We are from Germany and
je m'appelle Detlef. Nous sommes allemands. Pour nous, c'est la deuxième fois qu'on vient voir les gorilles. On est déjà venu hier. Et comment ça s'est passé? L'expérience était étonnante, mais c'est vraiment dommage. Au début, il faisait très beau, et au moment où on a vu les gorilles, il s'est juste mis à pleuvoir. Alors ils sont montés très haut dans les arbres et ils ne sont plus redescendus. Mais au début, ils n'étaient qu'à un mètre de nous, c'était étonnant.
Welcome. Comme ça, les gorilles qu'on va visiter, ici au Rwanda, on a 18 familles de gorilles. Au Congo, ils ont 4 familles de gorilles. Et en Ouganda, ils ont une. Vous voyez comment on a la chance d'avoir beaucoup de gorilles à notre côté. La gestation des gorilles, c'est la même que les personnes. C'est 9 mois. Après 9 mois, cette femelle-là va donner un bébé de 1 jour à 3 ans et demi. C'est la maman qui prend les soins. Mais les premiers 6 mois, leur bébé est toujours avec la maman. Entre à cet âge-là, de 1 jour à 6 mois, le bébé a la chance de survivre 60% et 40% il meurt. C'est pourquoi on n'a pas beaucoup de gorilles ici au Rwanda. De 3 ans et demi à 4 ans, on les appelle des juvéniles. Ce sont des bébés qui peuvent faire toutes choses à eux-mêmes. Mais la maman là, qui a laissé allaiter la bébé, elle peut être enceinte encore. Et dans toute sa vie, le femelle bébé, il fait entre 4 et 6 bébés. On n'a pas une femelle ici au Rwanda, une femelle gorille au Rwanda, qui a déjà donné 7 bébés. On n'a pas ça. Et dans l'histoire des gorilles ici au parc des volcans, on a seulement 3 femelles qui ont donné des jumeaux. De 6 ans à 8 ans, on les appelle des adultes, mais pour une femelle, elle arrive à l'âge de maturité. À cet âge-là, il y a un changement dans le comportement des femelles. À l'âge de 8, la femelle décide de quitter son groupe original. Elle va dans d'autres groupes. La raison, c'est pour éviter la consanguinité. Vous voyez comment les gorilles ils sont intelligents. Mais pas tous les gorilles quittent, mais 80% ils quittent leur groupe.
Notre guide, Edouard, un géant de 2 mètres, très souriant, uniforme vert et équipé d'un minuscule sac à dos d'enfant rose fluorescent.
Pour les mâles, on les appelle les gorilles à dos noir jusqu'ils arrivent à l'âge des 12 ans. Et quand ils arrivent là, ils ont totalement changé sur les dos. C'est pourquoi on les appelle les dos argentés. À l'âge des 12 ans, ils ont déjà changé. Et dans ces groupes qu'on va visiter, on a 3 dos argentés et on a pas mal à dos noirs. Mais pour les 3, il y a les 3 dos argentés, il y a le chef qui est toujours, c'est lui qui est le chef de ce groupe-là. Et les autres 2 argentés sont les fils du chef. Et le chef, on l'appelle Boumoué. Comme ça, le chef-là, les 2 argentés, ils ont un problème dans ce groupe-là. Parce qu'ils pensent qu'ils ont déjà arrivé l'âge de maturité et ils veulent faire des bébés. Quand ils veulent faire des bébés, ils font des relations sexuelles. Comme ça, ils trouvent beaucoup de punitions parce que toute femelle appartient à dos argenté, au chef argenté.
Jean-Claude Mussoni, il y a une grande fête qui se prépare là, une fête qui existe depuis 6 ans et qui est en rapport avec le fait de donner des noms aux gorilles. Comment elle s'appelle exactement?
Ça s'appelle Kuita Izina. Si j'essaie de traduire en français, c'est donner le nom. Si je donne un nom à un nouveau-né, c'est-à-dire que moi, donc je suis au couloir, le nouveau-né, il est là. Et il y a aussi une vision, ce que j'attends du nouveau-né. Donc le nom en culture, ou bien dans la tradition africaine ou encore rwandaise, ça a une grande valeur. C'est une reconnaissance.
Et est-ce que vous pensez que ça permet de mieux les protéger?
Bien sûr. Ce que nous attendons de ces gorilles ou bien de cette activité, la célébration de donner les noms, il y a d'un seul côté, il y a se donner valeur aux gorilles donc protection, mais aussi il y a aussi les gens qui habitent aux alentours, il y a ce qu'ils ont à en profiter.
Good Malushka. Good. Enjoy Gorillaz.
Voilà, c'est le départ.
Madame, si ça ne vous dérange pas, je voulais vous encourager de prendre un porteur qui peut vous aider.
Pour les sacs.
Pour les sacs, oui, oui. Bah.
Là, on est à quelle altitude, en fait?
Ici, déjà, c'est à 2400 mètres d'altitude.
Et on va monter
jusqu'à... On peut arriver même à 3000, ça dépend de la montée. Ouais, petit.
Tout à l'heure, on va retourner à mon cas.
Dire quelque chose aux porteurs, ils étaient des braconniers. Comme ça, ici, à l'office, on a fait... l'organisation, une association pour eux. Ils sont très aussi importants parce que quand il y a beaucoup de labo, quand il y a la montée, quelqu'un est fatigué, vraiment, ils sont très très importants. De temps en temps, on les apporte sur
les brancards.
Ah, oui, oui. Oui. Okay. On y va, les gorilles nous attendent.
Okay, see you later.
La montagne ici qu'on voit, c'est le Bisoké. Et pour arriver au sommet, c'est 3 heures du temps. Une personne qui s'est montée. Et au sommet, il y a un lac de cratères.
Ah oui.
Oui, oui, oui. On va faire un petit briefing. Soyez les bienvenus dans notre parc des volcans. On est des gens dans la forêt. Le mur que voyons, on l'a construit en 2003. Il y avait un problème de buffle qui entrait, qui allait manger des pommes de terre. Comme ça, on a construit un mur. Monsieur, c'est très important, viens ici. C'est défendu de fumer et ne jeter rien dans la forêt parce que les gorilles peuvent le prendre. Moi, je suis très patient parce que les gorilles, de temps en temps, ils peuvent se cacher et vous n'allez pas les voir très bien. On peut attendre jusqu'à ce qu'ils vont dans un bon endroit. Je vous souhaite une très belle visite. Après une heure, on stoppe notre visite. Je vous souhaite aussi de belles photos, mais n'utilisez pas les flashs. On doit être à 7 mètres devant les gorilles, mais les gorilles ne connaissent pas les règlements. Quand ils viennent tout près de vous, il faut toujours reculer derrière. Les gorilles peuvent prendre à manger, ils peuvent décider de manger derrière vous, les plantes qui sont derrière vous. Et il va venir comme ça. Il est en train de vous chasser. Comme ça, vous lui donnez la place. Et il va y aller. Ne touchez pas les gorilles, parce que si vous les touchez, ça, ce n'est pas bien. Je voulais vous dire quelque chose. Si les gorilles chargent, soyez confiants. Il est assis comme ça, et il se lève avec beaucoup de force. Et il bat sa poitrine. Ça fait peur. Mais il ne faut pas courir. Si vous courez, il va toujours courir. Hein?
Après vous.
Et je ne sais pas là où vous allez terminer avec les doigts argentés. Pour moi, quand il vient comme ça, il y a un signe. Il y a un signe qu'il fait. Quand il commence à faire ça, ça veut dire qu'il veut faire la charge. Et puis, ils battent avec beaucoup de force. Si vous êtes un bon photographe, prenez cette photo-là. Mais, si vous avez peur, baissez-vous lentement. Pas comme ça. Lentement. Hein?
C'est de soumission.
Il ne faut pas pointer aux gorilles. Vous êtes excité, mais il ne faut pas pointer les gorilles.
Le regard.
Et puis, quand vous les pointez, ils pensent que vous voulez faire des mauvaises choses sur lui. Il faut parler à basse voix. Oui. Une question?
Là, il y a des gardes armés. Pourquoi ils sont armés?
Oui. Il s'appelle Pierre. C'est lui le traqueur des gorilles. On vient avec lui, avec les fusils, parce que pour nous protéger contre les buffles. Et même aussi de temps en temps les braconniers. Mais surtout les buffles. Il est toujours devant. Quand il voit les buffles, il m'informe et on voit comment s'échapper, échapper les gorilles. Informe quoi? 09 Zulu. Binjiri, wahamaga informe quoi? Allô,
j'ai
un dicouvas d'informe quoi? Nous sommes à Zahajezo. Nine, Gassana, tu es comme un arico, n'a pas de panga. Roger, je suis comme un traka ou un mouvano. Yasha kureba niba ingagi zihari. Ok, ndumva reka muhamagare numva aho yinjiri.
Aroja nanjye nene muhamagare ndamubura sinifomo.
Les traqueurs vont rester ici à cause de trois raisons. 1. Les gorilles peuvent être malades. Ils vont appeler les vétérinaires docteurs de venir soigner les gorilles. Deuxièmement, ils peuvent rencontrer les pièges que les braconniers mettent dans la forêt pour attraper les buffles et les antilopes. Et les gorilles deviennent victimes. Comme ça, quand ils rencontrent des pièges, ils les enlèvent. Troisièmement, ils doivent connaître l'endroit là où les gorilles vont faire les nids. Parce que les gorilles mettent un nid chaque jour. Quand les gorilles commencent à faire les nids vers 16h, 16h30, 17h, comme ça, ils quittent la forêt. Et demain matin, très tôt le matin, ils connaissent que les gorilles ont fait leur nid quelque part ici. Comme ça, c'est ça les moyens qu'on utilise pour traquer les gorilles. Quand il pleut beaucoup, on trouve beaucoup de la boue.
Ici, elle est noire, elle n'est pas rouge, la terre.
Oui, la terre est noire parce que c'est une sol volcanique. Dans des milliers d'années, on a eu des problèmes de l'éruption des volcans. Et c'est pourquoi le sol se ressemble comme ça. Ouais. Ça va tout le monde?
Là, on doit se baisser parce qu'il y a une espèce de trou là, dans la végétation et on ne peut pas marcher debout. En fait, c'est la taille de gorille, je sais pas. Il y a des orties géantes des deux côtés, alors il faut faire vraiment attention.
Ne touchez pas ces plantes de gauche à droite, ce sont des orties. Ça.
Il n'y a pas des grandes feuilles comme ça?
Ah, on a, regarde, ce sont ici. On a plusieurs espèces ouais. Des orties.
J'ai vu plus gros dans Internet, j'en ai vu des comme ça.
Oui, oui, oui. Vous voyez ça?
Ah oui, là-bas, par exemple.
Ils sont gros.
Des orties géantes. Ça fait 2,50 m?
Et les gorilles mangent ça. C'est une bonne nourriture pour les gorilles.
Donc là, autour de nous, on a des bambous, mais plutôt côté sec. La forêt sèche.
Pardon.
En fait, il y en a quatre.
Celui-ci, c'est un don noir. Il aime jouer avec les personnes. Bien, il y en a. Il lâche plein, ici.
Ah, il vient de se taper la poitrine.
Ok, qui a une montre?
Il est en train de manger une liane ou... Il fait le pitre, en fait.
Ça, c'est la gourge sauvage. Nos grands-parents utilisaient ça comme un savon. Je voulais démontrer. Vous voyez? C'est du savon. Et ça, quand les bébés gorilles les rencontrent, ils jouent ça comme un football. Okay. Mais c'est un bon aliment pour les éléphants. Ça.
Ok.
Après, ça colle un peu. Hein.
Oui.
Comment on va vous faire?
Les gorilles, ils mangent 200 espèces de plantes. Et quand ils mangent les pousses des bambous, c'est une bière pour les gorilles. Ils changent complètement les comportements. Les gorilles pèsent plus de 200 kilos et ils mangent 15% de leur poids. Ça veut dire que chaque jour, ils mangent 30 kilos.
Sa taille là, du
et ils peuvent arriver de 1,2 m à 1,7 m. 1,2 m à
1,20 m à 1,70 m.
Ouais.
Voilà, il s'est levé d'un coup.
Good friend, hein? He likes me. Il m'aime beaucoup.
Il a tapé dans la main du guide.
Ah, mais il a levé comme il est.
C'est un ennemi du truc.
Mais est-ce que vous leur donnez des noms?
Oui, il s'appelle Himbara. C'est être joyeux. Himbara, il est toujours joyeux. C'est ça son caractère. Comme vous avez vu ce qu'il a fait à moi. Il m'a touché.
Stacy Rosenbaum, biologiste, chercheur en anthropologie. C'est étonnant, et même pas uniquement pour les gens qui ne sont pas scientifiques. Vous savez, la toute première fois que j'ai vu un gorille dans la nature, ça a frappé mon esprit et restera pour toujours imprimé dans ma mémoire. C'est vraiment... Vous les regardez dans les yeux et vous voyez quelque chose de vous-même. Vous savez, c'est impossible de ne pas voir quelque chose de vraiment humain, proche de soi, dans leurs yeux. Cela reste quelque chose de vraiment fascinant, et c'est vrai que vous soyez scientifique ou touriste, ou que vous ne les voyez qu'une seule fois dans votre vie. Chaque gorille a vraiment sa propre personnalité très différente. En fait, nous avons un chercheur en ce moment qui travaille sur ces différences de personnalité. Il travaille aussi avec les chercheurs qui travaillent avec eux, les pisteurs qui les suivent tous les jours, les vétérinaires, et il cherche à voir si nous sommes d'accord avec ces caractères qu'ils ont identifiés, pour voir si nous avons des impressions semblables sur tel ou tel trait de caractère de gorille. Et on les distingue très rapidement, vous savez, exactement comme les humains. S'ils restent calmes, ou s'ils bougent beaucoup, s'ils sont timides, ou s'ils sont plus téméraires, c'est ce qu'ils ont besoin de voir. Particulièrement, les jeunes animaux sont très curieux des humains et du coup, parfois, ils essayent d'entrer en contact et d'attirer leur attention. Mais nous essayons vraiment strictement de maintenir cette distance de 7 mètres entre eux et nous. La transmission de maladies est un gros risque. Des virus et des bactéries qui ne sont pas dangereux pour nous peuvent être vraiment dangereux pour eux. Donc on tient à garder cette distance. Mais bien sûr, les gorilles ne comprennent pas toujours cela, en particulier les plus jeunes. Et parfois, ils tentent de nous approcher. Mais les plus âgés, pour la plupart, ils nous ignorent parce qu'ils ont l'habitude de nous voir quotidiennement. Alors ils continuent à faire ce que font les gorilles sans nous. On essaye de ne pas interférer.
Nous avons établi notre nouvelle base dans une superbe zone de gorilles. Végétation dense, pentes abruptes. J'ai des contacts quasi quotidiens. Néanmoins, le comptage le plus complet que nous ayons pu mener à bien en dénombre moitié moins qu'il y a 7 ans, d'après Sembagaré. Ce n'est donc pas là une très bonne...
Le nombre de vos gorilles est effroyablement bas. Mais cela ne m'étonne pas. À ce rythme, les braconniers auront décimé l'espèce d'ici à 5 ans. D'où l'urgence d'amasser sur eux le plus d'informations possibles qui nous seront
très
précieuses.
Depuis quelque temps, j'étudie plus spécifiquement un groupe que j'appellerai le groupe 4. Je me suis progressivement approché des femelles et des jeunes, Mais le mâle dominant à dos argenté reste à l'écart. Il garde ses distances, mais observe tout très minutieusement. Je m'approche d'eux à 10 ou 20 mètres, sans qu'ils paraissent avoir peur. Au fil des jours, j'espère m'en approcher assez pour établir un véritable contact.
D'ailleurs, le grand Georges Chaleur, qui consacra sa vie à étudier les bêtes sauvages, eut la sagesse de garder ses distances. Soyez prudente. Et pendant que je vous tiens, ne pourriez-vous fumer des cigarettes moins chères?
Pour la première fois la semaine dernière, deux gorilles enfin m'ont approché. Plein de vivacité et d'entrain. Le dos argenté a observé la scène avec grand intérêt. Il ne me quitte pas du regard.
Diane, pour l'amour du ciel, je vous adjure d'être prudente. Georges Chaleur lui-même n'a jamais réussi à établir un contact physique avec des gorilles. Et le mâle dominant peut être extrêmement dangereux.
La semaine dernière, deux jeunes gorilles ont joué autour de moi pendant une heure. Je ne puis vous dire mon émotion. Cela vraiment m'a payé de tout.
L'héritage de Diane Fossey est très important en général pour ce qu'elle nous dit à propos des grands singes. Personnellement, en tant qu'anthropologue, bien sûr, je crois que le comportement des grands singes est important pour ce qu'il nous apprend sur le comportement humain. Il nous renseigne sur les origines de nos actes et sur pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Les grands singes, y compris les gorilles, sont les plus proches de nos cousins. Et Diane Fossey n'était pas la première personne ici, mais c'était la première qui, de loin, y a passé le plus de temps, 18 ans, et ses apports sur leur comportement ont été énormes. Aujourd'hui encore, un grand nombre de ces découvertes des années 70 servent de référence à nos travaux actuels. Une des choses particulièrement intéressantes pour moi, c'est de lire ces vieux écrits à propos du moyen particulier qu'ont les gorilles de se déplacer dans la forêt, parce qu'elle a produit des notes très détaillées à propos de la localisation des groupes, où ils se positionnaient les uns par rapport aux autres, et ce qui est vraiment fascinant pour moi, c'est de relire ces notes 30 ans plus tard et de constater qu'elles sont toujours à ce point tout à fait justes. C'est vraiment fascinant de voir que les gorilles, aujourd'hui encore, occupent la forêt de la même manière, qu'ils utilisent les mêmes moyens pour communiquer avec les autres groupes, que les grands dos argentés utilisent toujours les mêmes techniques pour attirer les femelles. Ça, c'est vraiment très intéressant pour moi. C'est drôle de lire ça et de penser à elles.
Donc c'est François qui fait le gorille.
Ça, c'est bonjour. Hein? Quand il est marié, il est très content. Il se ça, pas de problème. Hein? Qu'il est très... Quand il est happy, vous connaissez qu'il est très content qu'il mange les pousses de bambou, les chardons. On fait les salades. Il fait... C'est happy. So, thank you.
Et comme il mange les feuilles aussi, c'est très spécial.
Oui.
De manger.
Qu'il mange les feuilles. Les feuilles, ça, c'est les différents. Il y a d'autres qui mangent, qui sont très différents. Qui est très content, c'est qu'il fait. Ça, c'est les feuilles, les chardons, les bambous, qu'il fait les salades.
François Biguini-Mana, on raconte que vous avez travaillé avec Diane Fossey elle-même.
J'ai travaillé dans le parc il y a 31 ans que je travaille avec les animaux. On a commencé pour être avec. Les porteurs pour R. On a commencé 80, il est mort 85. Alors j'y connais bien.
Et est-ce que vous pouvez nous décrire un peu la personnalité qu'elle avait? Est-ce qu'elle ressemble à ce qui est décrit dans le film Les gorilles dans la brume, ou est-ce qu'elle était assez différente?
Diane Fossey, il n'aime pas les gens, il aime les animaux. Mais pour les porteurs, pour les gens qui travaillent ensemble, et ça, il n'y a pas de problème. Mais il n'aime pas beaucoup de monde qui peut venir à Caris. Okay? Si vous venez là-bas, il peut chasser. Il n'aime pas beaucoup de monde. Il aime les gorilles. Il aime les autres animaux aussi, les bifres, les éléphants. Mais il n'aime pas beaucoup de personnes. Hein? Ouais. Quand il veut les gorilles, très content. Mais pour les gens, quand les gens qui viennent, il dit non.
Et donc, c'est vrai cette histoire de Digit, là, ce gorille avec les deux doigts comme ça collés, qui est raconté dans le film, c'est la réalité?
Oui, c'est vrai, c'était Digit. C'était Digit qui a fait ça. Oui.
Il a eu combien d'enfants?
Digit? Beaucoup. Il y a beaucoup d'enfants. Parce qu'il y a beaucoup de femelles. Hein? Toutes les femelles, il avait les enfants. Ça a à peu près là, 15.
Ils avaient tous les doigts comme ça
oui,
collés.
Oui. Il était comme les gens, il était comme nous. Hein? Mm. Les gorilles étaient comme nous.
Oui, pour sa mort, en fait, il y a l'hypothèse des braconniers, parce qu'elle empêchait les gens d'aller braconner, mais aussi ça pourrait être l'État. Il y a beaucoup de rumeurs qui courent.
Ça, c'est pour qu'on a pensé pour nous. Il y a beaucoup de braconniers qui a tué les animaux, qui a tué les bifres, qui a tué les éléphants, qui a tué les gorilles aussi. Or, les gens, il avait les vaches dans ce parc. Bien qu'il a venu, il les chassait. Les gens qui avaient la vache se sont dit, c'est pas beau ça, parce que c'est la vache, il était dans le parc, les gorilles, ils n'avaient pas les choses pour manger. Les gorilles, ils montent jusqu'à la top des montagnes. Quand on pense que c'est les gens qui, les braconniers, c'est pas l'État, parce que l'État, il aimait Diane Foster. Tu vois, beaucoup de monde, il a venu pour voir les gorilles à cause de Diane Foster qui fait ça. Hein? Alors, quand on a pensé, c'était le braconnier qui l'a tué. Parce que les gens qui l'ont tué, il a tué les nuits. Quand il dormit, les gens, il est venu les nuits, il montait les maisons, il a coupé son machette. Il l'a coupé là, il l'a coupé ici aussi, comme ça. Mais il ne peut pas trouver quelqu'un.
Il lui a coupé la tête à la machette.
Oui. Mais très tôt le matin, les gens qui passaient les nuits là-bas, il a vu les cadavres. C'est qu'il a, commencé à téléphoner. Beaucoup de monde qui passait là, il allait là-bas pour voir. Il prend les cadavres jusqu'à Kigali. Il reste à Kigali les cadavres pour faire un télé avec Digit ensemble.
Comme vous voyez, les canines, les bébés, il est en train de me battre.
Il a attrapé un bambou pour lui taper dessus.
Oui. Je le connais, c'est ça son caractère. L'aîné, ça c'est l'impact qu'on a, les gorilles qui sont nés en regardant les personnes, ils sont tellement habitués à des gens. Ils connaissent les mauvais, ils connaissent les mal et les bien. Oui. Et comme il vient de prendre beaucoup de bambous, comme je vous ai expliqué le matin, c'est ça les signes qui les montrent.
Oh, ils sont tout petits!
Comme vous regardez ici, on a une femelle devant nous qui a son bébé, mais il est juvénile à cette heure ici. Et à gauche de nous, il y a deux bébés qui sont en train de jouer seul. Ouais. Vous voyez le bébé, il monte, il descend.
Il glisse sur les bambous. Oh là, il y a un gros qui approche là. Oh, il y en a un qui est en train de dépouiller là-bas. Oh, il lui marche dessus pour me grimper. On est tout près. Oh là, il y en a un qui a l'air d'attaquer là. Il s'est mis à quatre pattes. Oh, c'est lui qui fait ce bruit là. C'est comme si on faisait partie de leur famille. Ils sont trop mignons, les petits. Ouais, ils sont incroyables. Ils jouent comme des. La maman qui câline son bébé. C'est très mignon. C'est vous qui nous laisse approcher aussi près. Ouais, ils sont vraiment pas peur. Alors que nous un petit peu. Surtout quand ils couchent les bambous, ça fait du bruit, c'est impressionnant.
Oui, Chakuruhan de Katekumukura. Je fais un. Pour la chasser, parce qu'on ne veut pas que les gorilles touchent les personnes. Ce que vous voyez là, le gorille à dos noir, il est en train de montrer comment il est fort dans le groupe, qu'il trouve qu'il gagne du respect.
Ouais. Ah, il y en a un qui vient de se prendre une raclée, on ne sait pas pourquoi.
Il était au mauvais endroit, au mauvais moment.
C'est la mère en fait qui lui a. Il en a collé une.
Il a dû faire un coup en douce. Qui est passé inaperçu pour nous.
Oh, c'est mignon.
Il descend de son dos comme s'il était à cheval, tranquillement.
Il se laisse glisser tout doucement.
fait, on hésite un peu à leur tourner le dos, là, quand même, parce qu'on se dit...
C'est pas super rassurant. Ouais.
Ils sont très près, là. On est à 1m50.
Il coupe beaucoup de feuilles pour mettre dans sa bouche, pour qu'il montre qu'il est un peu furieux.
Ah, ouais. Oh, il y en a un petit, là.
Ici, on a une autre femelle qui a un bébé.
Elle est en train de manger le champignon orange. Oui. Ah, ils sont plus calmes que dans les eaux, alors.
Oui, légèrement. Enfin, l'autre, le mâle qui n'a pas le dos argenté, je trouve qu'il est assez impressionnant.
Ouais, hein. Il nous suit un peu quand même. Ah non, ouais. Il approche là.
Ouais, oh là. Il démontre sa force. Ouais. Oh là.
Oh là. Oh, oh. Il y en a un qui approche là. J'aime autant qu'il reste à distance. Mais...
On va peut-être rester un peu caché, même si je crois que ça ne servira pas à grand-chose. Il a l'air énorme.
En fait, on voit pas bien parce qu'il y a plein de talus, il y a plein de branchages dans tous les sens.
Et... Une espèce de silhouette noire, massive.
Et là, il nous tourne un peu le dos, donc ça va.
Oui, on va dire que ça va.
Là, ce qu'on entend, il est en train de mâchouiller, de mordre dans un gros morceau de bambou. En fait, il mange, il fait des petites pauses et il jette un petit regard, histoire de voir si on reste à distance. Et là, il se gratte la tête. Et il a vraiment un dos presque blanc, quoi. Donc c'est le chef. Mais il nous paraît beaucoup plus calme que l'autre mâle. Voilà, on en a un au-dessus de la tête en fait, qui grimpe et sur les bambous. En fait, des fois on entend, ils se tapent la poitrine, mais on les voit pas, on sait pas où ils sont. Alors,
attends, tu peux sortir ça.
Il s'est levé quand il a vu arriver l'autre.
Tu dois me faire pleurer. Mais...
Il va punir les désobéissants dans les crocs.
Elle tousse.
À tes souhaits. Ils toussent comme des personnes. Ça aussi, c'est l'autre dos en noir. Il aime jouer. Vous voyez, il commence à changer. Il n'a pas encore changé complètement. Et les nouvelles dos argentées, il aime jouer beaucoup avec les personnes. C'est pourquoi il fait toujours la démonstration quand vous les regardez. Ouais.
Il y avait un bébé caché.
Ouais, peut-être il est en train de dire à cette femelle ici de faire des relations sexuelles. Il est encore jeune. Hein. Regarde comment est-ce qu'il va.
Il est en train de démolir la forêt autour.
Le bébé aussi, il apprend à manger les pousses des bambous. Mais pour lui, il ne peut pas terminer toute une tige de bambou.
Il a des trop petites dents.
Oui, il a de petites dents.
Il a un air sérieux comme les grands quand même. Hein.
Excusez-moi, derrière nous, il y a un bébé qui vient. Tu peux me mettre debout. Essayez de ne pas... Attention. Le bébé veut vous toucher. Le kilo nous derrière.
Des relations sexuelles.
La fois que vous aviez compris, les juvéniles, ils faisaient des relations sexuelles entre mâles et femelles. Mais le problème, c'est qu'ils sont des frères parce que leur papa est une. Ouais.
Ça arrive qu'ils aient des relations sexuelles de, par exemple, mâle-mâle, ça arrive?
Ah oui, même femelle-femelle, on les voit de temps en temps. Pas toujours, mais de temps en temps. Ouais. Comme l'expérience que j'ai eue la fois passée, il y a une belle femelle qui est venue dans le groupe Sabino. Et dans le groupe Sabino, il y a deux dos argentés. Et le deuxième numéro, il voulait prendre les nouvelles femelles. Et le chef lui a mordu. Vous avez vu les canines des gorilles? Ils ont des canines très longues pour se défendre. Il l'a pénétré sévèrement. Toute femelle appartient au chef du groupe. Comme celui-ci, il a cinq femelles. Tous, c'est à lui. Et aujourd'hui, là, il y a trois doigts argentés, quatre, les nouveaux là que vous avez vus. Ils n'ont pas la chance de mettre le bébé. Mais le problème qu'on a, c'est une. Il fait toujours, il triche. Mais il fait tous les moyens que les chefs ne les connaissent pas. Mais s'ils les connaissent, problème. Quand il triche, il le fait en se cachant. Et quand il pénisse, il ne pénisse pas seulement les doigts argentés, les nouveaux argentés, ou bien il pénisse aussi la femelle.
Ah oui.
Un exemple typique au groupe Quitonde, le chef a puni même la femelle jusqu'à ce qu'il a enlevé l'œil.
Non.
Oui. Il y a l'hiérarchie. Dans ce groupe, on vient de voir quatre doigts argentés.
D'accord.
Vous avez vu le chef? Il a le numéro 2 qui est là, mais pour lui, on ne l'a pas vu. Il a perdu sa main gauche à cause des braconnages. Et lui, il n'est pas fort. Mais le troisième numéro, il est très très fort dans le groupe.
Ouais. Et les pièges, ils sont comment les pièges là, des braconniers? C'est avec des...
Ça dépend du piège. Un piège qui va prendre l'éléphant est très différent des pièges qui va prendre l'antilope. Il y a, ou bien le buffle, ils sont très différents. Pour les éléphants, ce sont des gros pièges. Et pour les antilopes, c'est comme une corde, comme ça. Et le buffle, c'est en moyenne, comme ça.
C'est fait avec des végétaux ou en métal?
Il y a des métaux, il y a des fibres, il y a des... aussi avec les bambous aussi. Ouais.
Dans le livre de Diane Fossé, il y avait un jeune qui était pris ou une femelle qui était prise dans un piège.
Oui.
Avec ses dents, il a réussi à desserrer l'étau qui était autour de la main, ce qui fait qu'elle était... Mais elle raconte beaucoup ce que tu dis, qu'elle a vu beaucoup de spécimens avec des mains atrophiées, zébrées et tout, à cause des pièges manifestement.
Si les gorilles voient un piège ici dans la forêt... Et vous y allez là, ils vous voient, comme nous les touristes qui viennent visiter les gorilles. Ils pensent que c'est vous qui avez mis le piège là. Et comme ça, il va être très très agressif.
C'est normal.
Et quand il les voit, il essaie de les échapper. Moi, j'ai déjà vu ça, maintes fois. Ouais.
Alors Laurent, quelles sont tes impressions finalement?
Moi, c'est un rêve que je voulais accomplir depuis longtemps. Et puis... Je crois qu'il y a peut-être un petit peu d'humanité à chercher du côté de ces grosses choses poilues par les temps qui courent. Et puis j'avais envie de les voir avant que peut-être l'homme détruise leur biotope. Et puis qu'il en reste peut-être pas. Ouais. Pour moi, c'est pas des primates, c'est des humains, c'est des cousins.
It's a moment when people...
C'est vraiment un moment où les gens peuvent pleurer tellement c'est étonnant. Il y a très peu de moments dans une vie où vous pouvez juste dire « waouh ».
Ils exprimaient beaucoup de choses dans le regard, on voyait qu'ils nous observaient et que par moments ils nous signifiaient soit de l'étonnement, soit même de l'agacement par moments, ce qui nous amenait à vraiment les respecter dans leur environnement. Et c'est tout à fait, ça vous pousse à avoir beaucoup d'humilité et à la fois beaucoup de curiosité pour voir cet animal vraiment impressionnant. Et c'est vrai qu'on se sentait vraiment, dans cette famille. Moi, à un moment, je me suis même assis pour être à peu près à leur hauteur, pour vraiment les voir de la même hauteur. Et c'était vraiment, on se sent inclus dans cet univers.
Bon, alors Daniel, vous avez pleuré ?
Oui, j'ai pleuré, oui. C'est ça, le simple fait de se trouver comme ça, en face à face, avec ces animaux qui nous ressemblent.
Je les imaginais comme assez, effectivement, assez agressifs. Je pensais qu'il fallait se méfier d'eux, qu'on risquait quand même des charges ou des attaques. Et finalement, c'est vrai que quand on les voit évoluer, ils sont très sereins, ils sont très... Surtout le mâle dominant, on voit que... Il sait que c'est lui le boss et voilà, quoi, on est là, il nous regarde, et ça l'inquiète pas du tout. Quoi.
Les petits, ils avaient l'air assez effrontés en fait.
Ah ouais, les petits, ça a l'air d'être des sacrés chenapans version gorille. Ouais, ils étaient assez marrants, hein. Ils jouaient juste devant nous, ils partaient en roulé-boulet, c'était assez marrant.
Oui, je voulais vous demander votre avis sur ce que vous pensez du tourisme. Est-ce que ça va les protéger, ces gorilles, ou est-ce que ça va être plutôt dangereux pour eux de s'approcher trop de l'homme comme ça ?
On essaie de les protéger. Et pour moi, je pense que quand on a commencé le tourisme, ici au Rwanda, le tourisme des gorilles, il y avait beaucoup de problèmes. Premièrement, on avait beaucoup de problèmes des braconniers qui venaient ici dans la forêt. C'est que l'office a fait, c'est de donner le travail aux personnes qui vivent tout près de la forêt. Les gardes forestiers, beaucoup d'eux étaient des braconniers, comme ça ils ont trouvé du boulot, ils ne pensent plus à venir ici aux forêts. Autre chose, il y a beaucoup de types de braconnage. Un, il y a les gens qui viennent couper les arbres, surtout les bambous. Ça, c'est un bon aliment pour les gorilles. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a les personnes qui vivent tout près de la forêt. Ils amenaient des ruches, des abeilles dans la forêt. Quand ils viennent récolter, ils mettent du feu pour chasser les abeilles. Et puis, on avait toujours la forêt brûlée, toujours. Et troisièmement, il y a d'autres personnes qui venaient pour tuer les antilopes, la viande, les buffles et les éléphants. Ici au Rwanda, on n'a pas eu beaucoup de braconnage des gorilles, les braconniers qui viennent prendre des gorilles.
C'est plus la destruction de la forêt qui les menace en fait.
Oui, c'est ça la destruction de la forêt.
En fait, ce qu'on entend, c'est les coups de feu. Qui arrive du Congo.
Je suis conservateur en chef du parc national des volcans au Rwanda.
Prosper Ouingil.
La taille actuelle, c'est 16 000 hectares. Mais c'est la partie rwandaise. Mais dans la conservation, on considère que c'est les protégés transfrontalières, donc vers le Congo et du côté ougandais. Et malheureusement, la partie rwandaise est la partie qui a été la plus menacée dans le passé. Et je pense que depuis 1958, le parc a perdu les deux tiers. Donc c'est
beaucoup.
C'est beaucoup.
Pendant les conflits, les gorilles ont été beaucoup décimés aussi.
Dans nos archives, dans nos données, on dénombre au moins... Je crois pendant les 10 ans de sécurité, il y a eu deux ou trois incidents. Et je crois qu'il y a seulement un gorille qui a été tué. C'est-à-dire que les gens ici ne mangent pas les gorilles. Donc le fait que les gens ici ne mangent pas les primates, ne mangent pas les gorilles...
Pourquoi ? Pour des raisons culturelles ?
Pour des raisons culturelles, oui.
Et donc, comme vous disiez, votre parc, évidemment, va jusqu'à la frontière. Et notamment, quand on est allé voir les gorilles, là, on entendait le conflit du Congo. Là, on a entendu des tirs de mortier. Donc, on voit que c'est très, très proche. Donc, de l'autre côté de la frontière, ils sont quand même très menacés par la guerre et aussi par, notamment, les mines, le coltan, là, qui est donc quelque part au Rwanda, vous avez presque de la chance de ne pas avoir ce problème de mines souterraines.
Je ne dirais pas que c'est la chance de ne pas en avoir. Je pense qu'il faut vraiment une maturité de gestion des affaires publiques. Alors, sans moi que nous avons conduit en 2010, on a trouvé que les goulets de montagne étaient estimés au nombre de 480. Et je ne peux pas dire combien qui existent au Rwanda, combien qui existent en Ouganda précisément, mais dans notre système de suivi régulier, surtout des gorilles habitués. Maintenant, on suit à chaque jour les gorilles dans 20 différentes familles au nombre de 300 gorilles. Donc, parmi les 480, il y a au moins 300 que nous suivons chaque jour pour la protection, pour l'intervention vétérinaire si nécessaire, pour les soigner et tout ça. Donc le suivi régulier nous aide vraiment à protéger les gorilles.
Est-ce que dans la forêt, justement, en altitude, là, près des volcans, là, est-ce que la frontière est matérialisée ou est-ce que les gorilles peuvent circuler librement d'un côté et de l'autre ?
La frontière n'est pas matérialisée, c'est-à-dire que les gorilles peuvent traverser du Rwanda au Congo, du Congo au Rwanda. Ça s'est passé dans le passé. Et justement, comme je vous disais, nous bénéficions de la collaboration transfrontalière. C'est-à-dire que quand il y a un gorille qui traverse du Congo du Rwanda, nous commençons le suivi. On peut communiquer pour les informer qu'un groupe particulier et se trouve ici. Et heureusement encore, notre mécanisme, nos mécanismes de collaboration ont permis que le Rwanda peut organiser le tourisme sur un gorille originaire du Congo et le Rwanda partager les revenus avec le Congo. On a déjà un groupe qui est au Rwanda depuis 8 ans et j'organise le tourisme dans ce groupe. Et puis, mon département organise le transfert de 50% de ses revenus vers le Congo. Donc, c'est-à-dire que la collaboration dans cette région, vraiment, on dit souvent que c'est vraiment un exemple de conservation, c'est un exemple typique de cette collaboration.
Mukara, il a dit que vous avez tiré sur un touriste il y a 8 jours.
Alors ça, non, c'est faux. Je tirais bien au-dessus de leur tête.
Oh, Mama Kumbifanya.
Il n'est pas question qu'ils fassent de cette montagne une de nos saloperies de sous.
Je pense que le tourisme, et pas seulement ici au Rwanda, est toujours une arme à double tranchant. Certainement, le tourisme au Rwanda a besoin d'être pratiqué avec beaucoup de prudence et une grande responsabilisation. Vous savez, ici, le gouvernement a institué de nombreux contrôles. Par exemple, une seule visite est autorisée par jour, les touristes n'ont le droit de rester qu'une heure, il y a un nombre limité de personnes par groupe, et ce type de réglementation aide à garantir la sécurité des gorilles, non seulement pour leur santé, mais pour la pérennité du tourisme. Mais les gorilles représentent de forts revenus au Rwanda, et le programme touristique leur donne une valeur, et ça, c'est très important. Dans un pays pauvre qui n'a pas beaucoup de ressources, c'est très étonnant de voir cette richesse naturelle qui rapporte non seulement de l'argent, mais aussi de la fierté. Vous savez, les gens en sont très fiers et c'est très positif, mais cela reste à manier avec précaution. J'ai voyagé dans toute l'Afrique et le Rwanda est l'endroit le plus propre que j'ai jamais vu. Et j'inclus les États-Unis dans ce constat. C'est vraiment étonnant et cela prouve que les gens ont travaillé dur pour obtenir cela. Le gouvernement s'est attaqué aux sachets plastiques et je pense que c'est vraiment une chose merveilleuse qui a vraiment servi à nettoyer ce pays. C'était « Les gorilles ne connaissent pas le règlement » avec Édouard Baizi, guide du parc national des Virunga, Prosper Uwingeli, conservateur en chef du parc national des Virunga, Stacy Rosenbaum, biologiste, chercheur en anthropologie à la Fondation internationale Diane Fossey, François Biguini-Mana qui a travaillé avec Diane Fossey, Jean-Claude Mussoni qui a participé musicalement à la fête Quita Isina pour le nom des gorilles, Antoine et Annelise, Daniel et Marie, Laurent, Detlef et Brigitte, et les gorilles si forts et si fragiles du groupe Amahoro, extrait du film Gorille dans la brume. Merci à Nomade Aventure. Mixage Pierre Monteil. Réalisation Anna Schmuck. C'était un documentaire de Lydia Benitzrak pour Sur les Docs.
L'heure du documentaire, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, liens et podcasts pour la jungle, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook à la page France Culture Documentaire. Et demain, suite de l'heure du documentaire avec une histoire particulière, être un chien au service de l'État. Mais dans un instant, retour dans la vie intérieure avec Christophe André.